pas parce qu'on s'est pas assez fait expliquer pourquoi qu'on est en Afghanistan. C'est, on comprend très bien les enjeux, c'est parce qu'on s'y oppose radicalement.
Mentionner les massacres que les soldats onisiens ont commis contre le peuple haïtien, surtout le peuple et des bidonvilles.
Sécurité, ce qui arrive, c'est que ça permet au gouvernement canadien de détenir quelqu'un sans charge, sans accès à la preuve.
On oublie souvent les questions de base qui définissent ce conflit. Ce conflit, c'est avant tout un conflit sur la terre.
Question de l'avortement. Alors, c'est pour ça que je suis ici avec ma fille, ma belle-fille, puis la relève. On continue.
Queremos mandar un saludo para los radioescuchas de parte de los zapatistas.
Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de En bas à gauche. Vous êtes sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM. Il est 9h du matin. Vous êtes en compagnie de Blandine, Nicolas et Maude pour cette nouvelle émission d'En bas à gauche. Également en studio avec nous ce matin, Tania qui nous a préparé une chronique sur le Brésil pour parler des élections qui ont eu lieu en octobre et des récents des violences qu'il y a eu à Rio. Alors on va en savoir plus avec Tania. Également la suite d'une entrevue réalisée en Argentine qui porte sur l'exploitation du sel, donc les entreprises salinières en Argentine. Et enfin une entrevue avec Nazila de la justice de la coalition Justice pour Anas Beniz.
En bas, à gauche. Enjeux et mobilisation.
Et alors, nous sommes en studio avec Tania Faustino da Costa, candidate à la maîtrise en sciences politiques, brésilienne d'origine et donc aussi d'études politiques. Merci beaucoup d'être avec nous.
Merci, ça me fait plaisir. Merci de l'invitation.
Alors, on t'a invité à l'origine pour nous parler du changement de gouvernement au Brésil, donc des élections qui ont amené à l'élection de Dilma Rousseff, qui est aussi la femme de l'ex-président Lula. Donc, il y a comme une situation...
Ben en fait, même s'il a des blagues et on dit parfois que c'est comme si c'était sa femme, ils sont pas ils sont pas mariés.
Pour de... Ah d'accord,
non,
bon.
Elle a été la chef de cabinet de son gouvernement.
Okay.
Dans son deuxième mandat. Donc elle était la femme forte de son gouvernement, si on peut dire comme
ça. Ben
c'est
quand même intéressant que ça ait été traité comme ça dans certains médias, parce que ça prouve quand même qu'on approprie des femmes politiques.
C'est tout à fait c'est pas très inapproprié parce que c'est Lula qui l'a choisi en fait. Ça a été questionné le choix de Dilma comme candidate au poste de présidente parce que ça a été un choix personnel du président en fait.
Et donc aussi, on va en profiter pour te parler de l'actualité qui s'est présentée à nous dans la semaine après t'avoir invité, c'est-à-dire les violences qu'elles ont été appelées à Rio, qui sont entre autres manifestées par l'arrivée de tanks dans des favelas. Mais on va te laisser commencer sur le changement de gouvernement pour ensuite s'en aller vers l'actualité.
Oui, c'est malheureux. Événements qui ont eu lieu à Rio de Janeiro, mais en fait, comme tu dis, je voulais rappeler un peu, faire un peu un topo de la situation politique au Brésil à ce moment. Donc, en octobre, Dilma Rousseff, la candidate du Parti des Travailleurs et donc la dauphine du président sortant Lula, elle a récolté 56% des voix au deuxième tour des élections contre presque 44% des voix du deuxième candidat, que c'était José Serra, du parti de l'opposition officielle au Parti de Travailleurs, que c'est le PSDB, le Parti de la Social-Démocratie au Brésil. Donc, c'est le candidat perdant de ces élections. Et c'est pas seulement la présidence que le Parti de Travailleurs a remportée. On se rappelle que Lula a été pendant 8 ans au pouvoir après avoir essayé les élections, d'emporter les élections à plusieurs reprises, à 3 reprises. En 2002, ces immigrants pauvres du nord-est, de la région la plus pauvre du pays, arrivent à la présidence du pays. C'était un moment où il y avait beaucoup d'espoir pour les changements sociaux au Brésil. Ça, c'était en 2002, donc il a resté pendant 8 ans. Et aujourd'hui, on peut dire qu'il finit son gouvernement couronné de succès. Il a une approbation de la population d'environ 80%. C'est quand même pas négligeable, c'est un chiffre admirable. Et il n'a pas seulement emporté la présidence, mais il a aussi emporté la majorité au Congrès, au Sénat et à la Chambre des députés. Ce sont les partis de la coalition qui ont appuyé la candidature de Dilma qui ont emporté le plus grand nombre de sièges. Donc, le gouvernement de Dilma, ça va être un gouvernement, on dit, plus facile pour plus aisément faire passer les réformes parce que dans la Chambre, elle va avoir une majorité. Et on lit dans les médias partout, pas seulement au Brésil, mais au monde, au niveau international, Lula, il est lauréat, il a été lauréat, c'est comme ça qu'on dit, il a reçu des prix pour sa diplomatie, sa capacité diplomatique, pour avoir distribué la richesse, pour avoir créé 14 millions d'emplois pendant ses 8 ans de gouvernement, pour avoir réduit le chômage à 6%, et si on pense qu'on est en temps de crise, avoir 6% de chômage, ça serait admirable. Je vais revenir là-dessus. La croissance économique au Brésil aussi, on a 7,5% de prévu pour cette année. Il affirme avoir distribué la richesse à travers son programme phare, que c'est le Bolsa Família. J'imagine que vous avez déjà entendu parler probablement, mais c'est un programme d'allocation mensuelle où on donne environ $50 par mois par famille. Ça dépend du nombre d'enfants. Il faut garder les enfants à l'école et vacciner. Mais on peut s'imaginer quand même comment ça doit être vivre avec si peu de sous par mois. Lula aussi dit qu'il est allé vers les classes pauvres parce qu'il a créé une nouvelle classe moyenne au Brésil. Il affirme avoir sorti 28 millions de personnes de la pauvreté et avoir enlevé à la classe moyenne 36 millions de personnes. Mais quand on regarde ces chiffres d'un peu plus près, on voit que pour être considéré classe moyenne au Brésil, ça suffit d'avoir des revenus annuels d'au moins $9,000 canadiens par année. Donc, si tu as $9,000, si tu fais $9,000 canadiens par année, ben, tu es à la classe moyenne brésilienne. Bravo. Et pour ce qui est du salaire minimum, qui affirme avoir augmenté plus que jamais dans l'histoire du pays, celui-là, il est aujourd'hui d'environ $4,000 par année. C'est le salaire minimum au Brésil. Donc, il faut mettre en perspective ces réalisations-là. Et tandis que les gains pour les classes pauvres au pays ont été très, très minimes, ils deviennent encore plus minimes quand on les compare avec les gains des classes plus puissantes au pays. Par exemple, la Banque nationale de développement économique, le BNDES, qui est financée par le Trésor public, Elle a reçu une quantité énorme d'argent, surtout dernièrement avec la crise, avec l'excuse qui, oui, les compagnies ont besoin d'argent pour créer plus de richesses, créer plus d'emplois. C'est un discours qu'on aime bien. Et 50%, environ 57% de cette valeur-là, elle a été destinée seulement à 12 grandes compagnies brésiliennes. Donc, c'est très, très concentré. On voit que la concentration du capital augmente au Brésil et ça va au-delà du territoire brésilien parce qu'on parle ici des multinationales, des compagnies comme Vale do Rio Doce qui est venue au Canada pour acheter Inco. Donc, on connaît les pratiques un peu qu'on pourrait mettre en question. On pourrait en parler en autre moment. Ou Brazil Foods, JBS, qui c'est une compagnie la plus grande productrice de viande au monde. D'ailleurs, le secteur agricole au Brésil, il a explosé sous le gouvernement de Lula. C'est un secteur qui reçoit beaucoup d'argent, tandis que la réforme agraire n'a pas eu lieu. Et la concentration de terres continue, on dirait catastrophique, je ne sais pas quel terme utiliser, mais c'est un pays avec la plus grosse concentration de terres au monde, si on considère le pays avec un PIB de taille, de poids. Lula affirme aussi avoir finir avec la dette publique, la dette internationale. On pense aujourd'hui à Irlande qui doit se plier aux exigences du Fonds monétaire international. Mais Lula a payé la dette brésilienne au FMI. Pas seulement ça, mais il a aussi prêté de l'argent au FMI, comme si le Brésil aurait passé à la condition d'une puissance économique. Mais c'est dont on ne parle pas. C'est que le Brésil a toujours une dette externe envers d'autres organismes de 240 milliards de dollars. Et plus pire que ça, encore très préoccupant, c'est que 36% du budget fédéral brésilien à chaque année va pour payer des intérêts de la dette publique. Le Brésil est endetté et cet argent va pour la banque, pour les banques, pour les marchés financiers, tandis qu'on destine seulement 3% du budget fédéral aux services d'éducation, qui on sait malheureusement ont pour la plupart une piètre qualité dans mon pays d'origine. Et aussi, 5% du budget fédéral vont à la santé. Et les gens au Brésil, la classe moyenne, la classe riche, ont accès à un service privé parce qu'ils ont un emploi. Donc, la compagnie paye une assurance ou sinon, ils payent de leur propre poche. Mais la grande, l'écrasante majorité de la population doit aller vers les services publics. Et souvent, il n'y a pas de médecins, il n'y a pas de médicaments. Les gens meurent dans les couloirs, cette histoire d'horreur. Et je mets l'accent là-dessus parce qu'on sait ici qu'il y a beaucoup de discussions sur un système à deux vitesses. Ben là, c'est le système à deux vitesses et c'est comme ça que se passe. Je pense qu'avec tout ce que j'ai dit, on commence à mettre en question un peu les réalisations que j'avais citées au départ. Mais on peut ajouter encore le fait que Lula dit... quand j'ai dit Lula, vous comprenez, on parle du gouvernement du Parti des travailleurs. Hein, ce n'est pas une personne, mais sa personnalité est tellement marquante qui plus que jamais... c'est pour ça que j'ai dit souvent Lula. Mais pour ce qui est de l'éducation, Lula a créé un programme qui s'appelle ProUni et ce programme donne accès aux jeunes qui n'ont pas les moyens de se payer les universités, de fréquenter les universités, donc ça donne des bourses. Sauf que c'est pas vraiment des bourses. Ça, il y a une partie des bourses, mais une partie des prêts. Et vous vous en doutez, la partie des prêts, elle est quand même très importante. Parfois, c'est la totalité de l'argent qui est offert à l'étudiant. Et c'est un modèle qui, en fin de compte, mais avant, il faut que j'explique aussi une chose. On a un modèle à deux vitesses en éducation au Brésil aussi. C'est pas comme si, c'est un modèle différent. Donc, on a les universités qui sont privées. Il faut payer les frais de scolarité. Et on a les universités publiques, normalement destinées aux classes moyennes, aux classes plus aisées. Il n'y a pas de frais de scolarité à payer là-dessus. Ce sont les meilleures universités, ce sont les universités publiques, sauf que l'accès est restreint. Donc, à la base, au primaire, au secondaire, les classes plus aisées envoient leurs enfants à l'école privée. Ils ont les moyens de payer. Ce sont les meilleures écoles à la base. Mais quand ils arrivent à l'université, ils arrivent à rentrer à l'université publique parce qu'ils ont eu un parcours, ils ont eu une bonne éducation. Et quand je parle du Praouni, je parle au niveau post-secondaire. Donc, professionnalisant l'université. Et c'est là qu'il a créé ce modèle où on garantit les revenus des universités privées qui sont contentes parce qu'elles reçoivent les frais de scolarité. Elles n'ont pas à être inquiètes que les étudiants ne vont pas payer parce que les gouvernements payent directement, tandis que les étudiants sont endettés. Souvent, et vous pouvez imaginer c'est quoi que ça donne.
Et peut-être sur la question du gouvernement, une petite question rapide qui brûle les lèvres. Comment Lula a pu continuer à avoir une réputation de gauche malgré tout ça? Puis peut-être aussi comment est-ce qu'on en vient? C'est quoi le lien entre ces politiques-là et la situation qu'on a vue dans les derniers jours?
C'est difficile à dire comment, avec tout ça, il continue à avoir une réputation de gauche. Mais mon avis, c'est que il est plus difficile de critiquer quelqu'un qui se positionne comme étant à gauche, comme Lula, d'une façon tellement puissante, parce que son parcours de vie, il est venu, il a immigré du nord-est du pays quand il était petit, il a été un travailleur enfant, il n'a pas été éduqué, il était très pauvre, une famille avec 7 enfants, si je ne me trompe pas. Son père a laissé sa maison et c'est sa mère qui lui a enlevé. Donc après, il a été ouvrier, un dirigeant syndicaliste. Donc, on peut pas, c'est difficile d'arriver à croire que quelqu'un avec un tel parcours ne penserait pas à des politiques en faveur des gens qui ont été comme lui, quoi. Donc, c'est plus difficile encore de faire des critiques, à débriser cette image-là. Et ce qu'il a mis en place favorise les classes plus puissantes, comme j'ai essayé de montrer ici. Donc, eux, ils ne seront pas les premiers à pointer les doigts et dire, mais vous voyez ce que vous faites, là, c'est pas vraiment. Et on pourrait se demander aussi pourquoi Lula n'a pas réussi à mettre en place les politiques de gauche, mais il me semble qu'il, lui, il a fait ce qu'il voulait. Si on lui entend parler, il a jamais été socialiste, Lula. Il a toujours été quelqu'un qui croit au système capitaliste, qui croit aux réformes, qui croit. Donc, je pense qu'il croit à tout ce qu'il fait, du moins quand on lui entend parler. Et il passe l'idée qu'il est très fier et très content de ce qu'il a fait. Donc, je pense qu'il croit sincèrement qu'il est en train de changer les pays, distribuer le revenu.
Puis, il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais en conclusion, si tu pouvais nous faire une petite explication de l'analyse qu'on peut faire des événements de la semaine passée dans les favelas.
À Rio, ce qui se passe maintenant, c'est que l'armée a occupé le complexe d'Alemão, qui est un ensemble de quelques favelas. Comme vous savez, les favelas, c'est les endroits très misérables à Rio de Janeiro. Et ça a été télévisionné, ça a été mis en direct dans tous les médias brésiliens. Les gens ont pu voir la police avec l'armée, avec les tanks, occuper les favelas. Il y a eu des gens innocents qui ont été tués, entre eux une fillette, une fille de 14 ans qui était chez elle et elle était morte. Et on met la question comme si c'était un combat entre les troupes du bien, les forces de l'ordre qui sont là pour pacifier les favelas et les bandits. Mais je pense que la réalité est beaucoup plus que nous on sait que ça, le mauvais avec les bons côtés. Et je pourrais amener plusieurs arguments pour dire que ce n'est pas une pacification, malheureusement. J'aurais aimé ça. Rio, c'est une vie merveilleuse, vraiment belle. Et j'aurais pouvoir aller à Rio et apprendre que ça a été pacifié. Mais il y a une chose. D'abord, il y a les milices. Les milices, c'est un groupe d'ex-policiers, souvent ou des policiers, qui occupent maintenant plusieurs favelas. Et les favelas qui sont occupées par les milices. Et qu'est-ce qu'ils font là-bas? C'est un peu comme la mafia. Donc, ils vont offrir des services à la population comme les gaz pour cuisiner, la télé à câble. Ils ont des systèmes parallèles de télé à câble, les transports, l'électricité, plusieurs services parce que le gouvernement n'est pas là, il n'y a pas ces services. Donc, ils offrent à la population à un prix qu'ils veulent. Et, ou sinon, ils chargent des commerçants pour pouvoir fonctionner. Ils chargent un montant. C'est comme on peut l'aider des mafias. Et l'armée n'est pas du tout... Elle n'a pas touché le favela où sont les milices, malheureusement. Elle a touché les UPP, les unités de police pacificatrices, qui sont en train d'être mises en place. Elles sont dans les monts, dans les favelas, où sont les trafiquants des drogues. Mais on voit déjà que ça tombait, même avant qu'on mette en place ces UPP, ces unités pacificatrices. Et à Rio, on a plus de 1000 favelas de toutes sortes de tailles, plus petites, plus grandes, et tout ça. On a Rocinha, que c'est une de plus grande, où la UPP n'est pas arrivée encore, mais on a seulement 13 UPP, 13 unités de ce genre installées, donc dans presque 1000 favelas. Donc une critique facile qu'on peut faire tout de suite, que ça saute aux yeux, c'est une préparation pour les Jeux olympiques, les Coupes du monde qui s'en vient, la Coupe du monde 2014, les Jeux olympiques en 2016. Donc on est en train de... je ne vais pas dire nettoyer, mais on est en train de préparer la ville d'une façon triste, très triste.
Mais merci beaucoup, Tania, d'avoir été avec nous.
Et merci, ça m'a fait vraiment plaisir.
Alors, c'était Tania Faustino d'Acosta, candidate à la maîtrise en sciences politiques sur un brin d'actualité du Brésil. On continue à En bas à gauche sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM avec une petite pause musicale.
Modernizar o passado é uma evolução musical. Cadê as notas que estavam aqui? Não preciso delas, basta deixar tudo soando bem aos ouvidos. O medo dá origem ao mal. O homem coletivo sente a necessidade de lutar. O orgulho, a arrogância, a glória enche a imaginação de domínio. São demônios os que destroem o poder bravio da humanidade. Viva Zapata, viva Sandino, viva Zumbi, Antônio Conselheiro, todos os Panteras Negras, Lampião, sua imagem e semelhança, eu tenho certeza, eles também cantaram um dia.
Devrions être rejoints par téléphone par Nazila de la coalition Justice pour Anas. Bonjour Nazila.
Salut.
Alors merci d'être avec nous. Peut-être donc il y a une mobilisation qui est samedi prochain à 13h, mais est-ce que tu pourrais nous donner un petit peu l'histoire et le contexte de cette commémoration?
Bien sûr. Oui, donc effectivement, on appelle à une marche samedi prochain, donc c'est samedi le 4 décembre à 13h, une marche familiale ouverte à tout le monde, donc j'encourage tout le monde à venir. Le but de la marche, c'est vraiment de souligner, comme chaque année depuis 4 ans, l'anniversaire de la mort de Mohamed Anas Denis, qui est un jeune qui était âgé de 25 ans, qui a été tué dans le quartier Côte des Neiges le 1er décembre 2005 par Yannick Pernier du SPVM. Il a été tué de 2 balles fatales ce matin-là, puis 5 ans plus tard, malheureusement, les questions persistent et il n'y a toujours pas d'informations pour la famille et pour les gens dans le public qui se demandent qu'est-ce qui s'est passé ce matin-là. Donc, comme chaque année, on organise une vigile, en fait, pour souligner l'anniversaire de sa mort. Cette année, on a décidé de faire une marche commémorative parce que ça fait 5 ans, donc pour marquer le 5e anniversaire, mais aussi pour souligner et célébrer l'annonce de la tenue d'une enquête publique, finalement, dans ce dossier. Ça va faire 5 ans, en fait, que la famille réclame une enquête publique pour les causes et circonstances entourant la mort d'Anna. Puis, finalement, après une lutte acharnée tant au plan légal qu'au plan public, il va y avoir une enquête publique qui va avoir lieu en 2011, probablement.
Donc ça, 5 ans après, finalement, une enquête publique, il y a aussi tout un contexte de lutte contre l'impunité policière qui va avec ça. Il y a une marche commémorative qui a eu lieu il y a à peine quelques semaines, en octobre, par d'autres familles. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce contexte?
Oui, bien sûr. Alors, en fait, c'est sûr que l'impunité policière persiste dans tous les dossiers de brutalité policière à Montréal. C'est triste à dire, mais c'est clairement quelque chose qui fait l'unanimité dans tous les dossiers. Pour parler d'Anas particulièrement, l'impunité policière a commencé depuis le début, c'est-à-dire que dès que la famille a commencé à poser des questions sur ce qui s'est passé, il y a eu une espèce de mur qui a été érigé par à la fois les autorités policières et les autorités administratives de la ville et de la province, en fait. Donc, une attitude très méprisante depuis le début. Pour empirer les choses, finalement, après 2 ans et demi de lutte, en juin 2008, la coroner en chef du Québec, Louise Nollet, avait finalement ordonné la tenue d'une enquête publique dans le dossier d'Anas. Mais 2 mois plus tard, le syndicat policier a soumis une requête pour essayer de bloquer l'enquête publique. Vraiment, on menait une forte bataille pour essayer de faire en sorte que l'enquête publique n'ait pas lieu. Ce n'est que finalement le 2 septembre dernier que le juge Champagne a remis une décision finalement pour ordonner l'enquête publique dans le dossier. Puis c'est un peu dans la foulée d'une autre décision. Donc l'impunité policière qui s'applique dans tous les dossiers de brutalité policière, une décision de la cour d'appel est tombée quelques mois auparavant par rapport à un autre dossier qui est le dossier de Michel Berniquez qui a été tué en 2003. Et dans son cas aussi, il y a une enquête publique qui a été demandée. Dans son cas aussi, la Fraternité des policiers essaie d'empêcher de l'enquête publique. Puis dans son cas aussi, finalement, on a dit non, il va y avoir une enquête publique. Puis quand on pense à Freddy Villanueva, quand on pense à Bridget Tolley, quand on pense à tous les autres cas desquels on est au courant, en tout cas, c'est sûr qu'il y en a malheureusement beaucoup qui continuent de s'accumuler, la liste est très longue. Finalement, le 22 octobre dernier, plusieurs des familles des victimes de la brutalité policière à Montréal et en dehors de Montréal aussi se sont mis ensemble pour organiser une marche, à la fois pour se rappeler des siens, de ceux qui sont tombés sous les balles des policiers, mais aussi de faire en sorte qu'il y ait un mouvement commun pour lutter contre l'impunité policière et pour faire en sorte que la police rende des comptes quand il y a des cas de brutalité et d'abus policiers.
Alors, un des grands gains de toutes ces campagnes, c'est, comme tu le mentionnais, la tenue d'enquête publique. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'une enquête publique? C'est quoi les attentes, les espoirs, puis aussi les limites de ce processus-là?
Ouais. C'est sûr qu'il faut mettre les choses en contexte. La coalition Justice pour Anas, depuis le début, demande une enquête publique, une enquête complète, une enquête transparente. C'est sûr que la législation actuelle, si tu veux, la seule option qui correspond un peu à ce critère-là, c'est une enquête du coroner ou une enquête publique qu'on appelle. L'avantage, c'est que c'est clairement un forum, comme on l'a vu dans l'enquête sur la mort de Freddy Villanueva dans la dernière année, qui permet d'avoir une investigation plus approfondie des événements, donc qui permet à la fois d'obtenir les faits, d'obtenir tous les rapports, d'obtenir tous les documents qui sont en lien aux preuves par rapport à l'événement en question qui est investigué, mais aussi, et ça c'est pas mal unique, de contre-interroger les policiers eux-mêmes qui sont impliqués, parce que souvent dans ces dossiers-là, malheureusement, les policiers n'ont jamais à être interrogés. Tout ce qu'ils font, c'est soumettre un rapport qui souvent est soumis bien après les faits. Dans le cas de Freddy Villanueva, on se rappelle que la pointe a mis un mois avant de déposer son rapport. Donc, il n'y a jamais vraiment de processus transparent d'investigation où ils ont à rendre des comptes dans une cour de justice comme tout le monde aurait à le faire. Donc, ça permet vraiment d'avoir cet aspect-là. Puis, si on regarde en tout cas l'exemple dans l'enquête en dossier de Villanueva, c'est sûr que ça a permis de sortir pas mal d'informations qui ne seraient jamais sorties, tant au niveau des détails de l'intervention policière, des différents éléments que le service de police de Montréal avait à sa possession, et à la fois des témoignages des policiers, mais des témoignages des autres témoins aussi. Donc c'est assez unique comme forum dans ce niveau-là.
Encourageons les entreprises d'ici qui nous reçoivent et nous servent fièrement en français. Les entreprises d'ici qui nous offrent des produits où tout est en français. Les emplettes de Noël, c'est en français que ça se passe. Impératif français vous souhaite une heureuse francisation et un joyeux Noël, tout en français.
Radio Centre-Ville vous invite à faire connaître davantage vos produits et services. Vous êtes en affaires et aimeriez cibler certaines communautés de Montréal? Rien de plus simple. Nous vous aiderons dans la conception de votre message publicitaire et dans la stratégie à adopter pour vous adresser aux communautés que vous aimeriez rejoindre. Nous leur parlerons de vous dans leur langue maternelle. Ce sera donc personnalisé et fort sympathique. Radio Centre-Ville est à but non lucratif et nos tarifs publicitaires sont tout petits. Pour de l'information sur votre publicité à Radio Centre-Ville, rejoignez Daniel au 514-495-8836, 495-8836 ou à publicité@radiocentreville.com. Au plaisir de parler de vous sur Radio Centre-Ville.
Avez-vous reçu votre autocollant Prudence au volant des amputés de guerre? Apposez-le sur votre voiture, votre motocyclette, votre bateau ou votre motoneige. En fait, là où vous désirez véhiculer le message « Prudence au volant ». Commandez-le sans frais au 1-800-250-3030 ou en visitant le site amputedeguerre.ca.
Les conducteurs et les amputés de guerre, de concert pour promouvoir la prudence au volant.
Vous êtes à la recherche d'exotisme et de bien-être. À deux centres-villes vous sert un savoureux cocktail musical. Passez votre commande en consultant notre programmation au www.radiocentreville.com. Nous mettons l'accent sur le monde de Montréal.
Comme tu le suggères, c'est sûr que ce n'est pas une panacée non plus. Les deux limitations principales, à mon avis, c'est d'abord la limitation de la portée d'une enquête publique. Ce n'est pas une enquête qui peut malheureusement prescrire de sanctions par rapport aux actions des policiers. Tout ce qu'elle peut faire, c'est émettre des recommandations générales pour essayer de prévenir qu'un événement de la même ampleur ait lieu encore. Donc, ça permet finalement de soumettre des recommandations, mais ça ne permet pas nécessairement d'avoir de processus d'imputabilité au sens strict. Ces recommandations restent des recommandations, c'est-à-dire qu'il n'y a pas nécessairement de processus qui fait en sorte qu'elles sont appliquées automatiquement. Donc au niveau de la portée, on pourrait dire que c'est assez limité. Puis l'autre élément, c'est que c'est sûr que ça reste quelque chose qui repose sur la mémoire des témoignages des personnes. Donc 5 ans plus tard, on peut peut-être présumer que la mémoire des gens, des différents témoins qui vont être appelés à la barre, vont pas être aussi pointus ou aussi précis qu'ils l'auraient été quelques mois plus tard. Donc c'est sûr qu'on est un peu désappointé que ça se passe 5 ans plus tard. C'est pas idéal, loin de là. N'importe quelle personne qui a été à des enquêtes dans le passé s'en aperçoit assez rapidement. Puis bon, c'est sûr qu'il faut aussi faire avec ce qu'on a. Donc c'est sûr qu'il faut compter un peu sur la bonne foi du service de police pour qu'ils soumettent tout ce qu'ils ont. On a vu encore une fois dans le dossier Villanueva que c'est pas toujours quelque chose qu'ils font de manière très proactive. Le fameux dossier sur la réalité du profilage racial à Montréal qu'ils avaient commandé eux-mêmes après la mort de Freddy Villanueva n'a pas été déposé en enquête publique. Il a fallu que ce soit le juge qui le demande pour qu'il le dépose. Donc c'est sûr que ça repose aussi sur certains éléments de bonne foi qui malheureusement n'est pas toujours présent quand on a affaire à quelque chose comme le service de police de Montréal ou la fraternité des policiers.
Est-ce qu'il y a des possibilités de faire des plaintes directement pour incriminer les policiers ou est-ce que ces avenues-là sont fermées dans ce cas-là?
Alors, il y a différents niveaux de plaintes au Québec. Alors, le premier niveau, le premier palier, si tu veux, c'est vraiment de soumettre une plainte à la déontologie policière. C'est quelque chose qui a été fait, que la famille a fait. Malheureusement, c'est une institution qui semble être très frileuse quand il en vient à sanctionner des policiers. Puis c'est très rare que des policiers qui soient sanctionnés. Donc dans le dossier immédiat ici, par rapport à la mort d'Anas, il n'y a pas eu de sanction. Par contre, quelque chose qu'on a noté il y a quelques temps, c'est que l'agent qui était de service avec Yannick Bernier le matin où Anas a été tué, l'agent Jonathan Roy, il y a quelques temps, vient d'être trouvé coupable de 5 infractions au code de déontologie policière pour un incident qui n'était pas relié, mais un incident qui impliquait du profilage racial en 2008 dans le même quartier à Côte-des-Neiges. Puis il a été suspendu pour 23 jours à la suite de cet incident-là. Donc c'est sûr qu'encore une fois, ça lève un peu le spectre du profilage racial, qui est quelque chose qu'on mentionne depuis le début du dossier, étant donné les circonstances entourant de la mort d'Anas. Donc ce serait un peu le premier palier en matière de plainte. Ensuite, bon, c'est sûr qu'il y a théoriquement moyen d'aller faire des poursuites aux civils, donc faire une poursuite civile contre les policiers pour demander des dommages. Là encore, on ne parle pas de sanctions, malheureusement, on parle juste de réparation et de dommages pour la famille. Le problème, c'est que pour faire une poursuite aux civils, bon, un, c'est hyper long, deux, ça prend des moyens financiers assez généreux parce que ça coûte très très cher, puis il n'y a personne qui couvre les frais d'avocat. Puis en troisième lieu, il faut avoir des éléments de base pour pouvoir faire une poursuite aux civils. Et le problème, c'est que s'il n'y a pas d'enquête publique, il y a un peu un blackout sur ce à quoi la famille a accès pour faire une poursuite au civil. On se rappelle que les documents pertinents au dossier, donc que ce soit les résultats de l'enquête de la police de Québec qui a mené l'enquête sur la mort d'Anas ou le rapport du procureur, sont des choses qui ont été gardées très, très secrètement et qui n'ont jamais été relâchées et données à la famille. Donc, ça devient un peu difficile de faire une poursuite au civil dans ce contexte-là. Le dernier élément, c'est d'essayer de faire des poursuites aux criminels contre des policiers, mais ça, c'est quelque chose qui semble ne jamais vraiment aller de l'avant parce qu'on est un peu limité par la couronne, dans le sens que tout ce qu'on peut faire, c'est suggérer qu'il y ait des poursuites qui sont engagées contre des policiers, mais c'est vraiment la couronne qui mène le procès. Donc, si la couronne pense que c'est pas pertinent, ben, ça s'arrête là. Donc, tout ça pour dire que les avenues en matière de recours, malheureusement, puis en matière d'imputabilité, vraiment pour les actions des policiers sont très, très, très limitées. C'est pour ça qu'on place beaucoup d'espoir, puis qu'on est vraiment content que l'enquête publique ait lieu, parce que c'est vraiment le forum qui, à mon avis, va permettre d'avoir finalement de l'information et finalement peut-être la réponse aux nombreuses questions qui entourent la mort d'Anas. Donc, c'est un peu dans cette optique-là qu'on organise la marche, puis on encourage les gens à venir célébrer ça avec nous.
Alors justement, est-ce que tu peux nous rappeler les informations pour se joindre à vous samedi?
Ouais, alors c'est samedi 4 décembre à 13h. Ça va commencer au parc 3. C'est le parc qui est exactement au coin de Queen Mary et Côte-des-Neiges. Donc métro Côte-des-Neiges ou autobus 165. Ça va être une marche très festive, une marche familiale. On encourage les gens à amener des bannières, des instruments, des pancartes, puis à être là en grand nombre pour soutenir la famille, puis pour souligner le 5e anniversaire depuis la mort d'Anas.
Et puis alors, si on veut vous soutenir en dehors de cette marche-là, il y a votre site web www.justicepouranas.org, si je ne me trompe pas.
Absolument.
On peut se procurer du matériel d'information à diffuser dans son réseau, on peut vous contacter et endosser les revendications?
Tout à fait. Donc on encourage toujours les organisations communautaires ou les gens qui se sentent en solidarité avec nous de consulter le site web, puis on peut endosser les trois demandes de la coalition qui sont ce qu'on a mentionné, là, obtenir toutes les informations par rapport à la mort d'Anas, l'enquête publique et la fin de l'impunité et de la brutalité policière.
Et merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci à toi.
Bonjour.
Bonjour monsieur, qu'est-ce que je peux faire pour vous?
J'aimerais déposer plainte s'il vous plaît.
Très bien, veuillez me suivre s'il vous plaît.
D'accord.
Asseyez-vous, je vous en prie.
Merci.
Alors je vous écoute. Vous voulez porter plainte contre qui?
Je porte plainte contre l'homme, sa loi et ses normes, son képi et son arme, caché derrière un uniforme et l'enfoiré qui nous saigne, fait de nous des gens indignes, nous assigne et nous entraîne à cracher sur leur insigne. Je porte plainte contre vous, vous et vos collègues, qui faites de nous des gens à part et nous conforme à vos règles, vous qui nous rabaissez, faites de nous des incultes, qui leur peut cesser, qui ont fait de nous une insulte, et contre vos lois si sera, tous vos magistrats. Je porte plainte contre ceux qui condamnent trop long et si ça, et fort que le proc, gros bisous à la juge, vos prêcheurs sont des pêcheurs, et adeptes de la cruche. Oh, je porte plainte, les frères vivent dans la crainte de vos photos empreintes, des bracelets et leurs étreintes, vos bottes s'en moquent, ont mis le respect de côté, au champ du corps, même la rhum est de l'autre.
Je porte plainte,
assermenté ou pas, représentant l'État, personne ne suit des lois, car chaque personne a des droits, la foi dans mes couplets, vous m'écoutez ou pas, vous qui gardez la paix. Qui touchent le peuple ne sont qu'une minorité. Trop de délits, de sales gueules pour vous dire la vérité. À force de nous prendre de haut, d'agir avec sévérité. Vous nous avez rendu barjots et rigides à l'autorité. Trop souvent verbalisés, vos patrouilles sont balisées. Vous n'êtes pas tous dans le même sac. Je ne vais pas généraliser. Vous aimez casser les valseuses pour un petit pilon. Nous parfumer à la gazeuse. Et l'un de vos péchés mignons. À chaque manifestation, vos méthodes sont draconiennes. Vos patrons écoutent Satan et meurtrent des boîtes crâniennes. Normal que les gens aient la haine de la peine. Au final, ils comprennent rien banal vu que les cons règnent. Assermenté ou pas, représentant l'État, personne ne suit des lois car chaque personne a des droits. La foi dans mes couplets, vous m'écoutiez ou pas, vous qui gardez la paix, foutez-nous là. Oui, la jeunesse en a marre, lève ta main, lève ton doigt, lève ton doigt.
Mais bon, monsieur, c'est irrecevable ce que vous me dites là, c'est irrecevable. Et puis il faut savoir que sur le terrain, entre les refus d'obtempérer et ceux qui ont carrément pas de papier, bah tiens, j'aimerais bien voir les vôtres d'ailleurs.
Vous dites que impossible n'est pas français, que moi non plus, je ne sais plus quoi penser, ni sur quel pied danser, vu que je me sens intégré, faisant mon tard de citoyen, oubliez donc mon pédigré, du petit franc qu'on m'agrée, bah, la justice n'est pas la même entre François et Gardner.
Alors, on va continuer avec une entrevue qui a été faite la semaine passée, lundi, en fait, c'était le 21. Alors, le 22, excusez-moi. Cette entrevue qui a été faite avec un homme qui vit dans le village de Tilcara, dans le nord-ouest de l'Argentine, région semi-désertique, où il y a énormément de lobbies industriels pour le développement de l'industrie extractive en général. Alors, c'est une entrevue avec Roger Moreau, cette fois-ci, sur l'exploitation des grandes salières.
Je suis français. Et je suis avec ma famille dans une vallée, une haute vallée andine, qu'on appelle ici une quebrada, et ça veut dire une vallée profonde, sèche, qui est à l'extrême nord-ouest de l'Argentine, dans une province qui s'appelle Jujuy et qui est limitrophe avec au nord la Bolivie et à l'ouest le Chili. Alors c'est une très belle vallée qui est très connue en Argentine, un petit peu même mythique, qui symbolise le nord-ouest à forte identité ethnique. Elle est dominée d'un côté par une chaîne de montagnes qui culmine à 4500 mètres et qui est habitée par des populations autochtones, et de l'autre côté, du côté ouest, dominé par le haut plateau de la Puna, qui a une altitude moyenne de 3500 mètres et qui est immense, qui se prolonge en Bolivie, au Pérou, au Chili. Par ailleurs, une menace est dans notre région et concerne les grands salins de l'altiplano de la Puna, qui forment dans l'intérieur d'un triangle de 200 ou 300 km de long, qui va depuis le grand salin d'Uyuni en Bolivie et qui comprend des salins dans notre province de Jujuy et dans la province voisine au sud de Salta, qui constitue un ensemble que certains appellent l'Arabie saoudite du lithium. Ce sont des gisements de lithium dans des saumures souterraines à ces grands salins et qui ont provoqué depuis quelques années un engouement considérable de la part d'une quinzaine de sociétés internationales, de plusieurs pays, des États-Unis, du Canada, de France, de Chili, de Chine, je veux dire, et qui se disputent ce territoire. Le gouvernement provincial leur a accordé d'immenses étendues en concession par-dessus l'avis des communautés locales et en contradiction avec la législation argentine et internationale, notamment une loi internationale de l'Organisation internationale du travail qui donne protagonisme aux communautés indigènes dans les décisions concernant leur territoire. Et alors toutes ces concessions sont accordées sans tenir compte des communautés. Et c'est en même temps un problème redoutable, mais en même temps un levier pour des actions juridiques. Alors en Argentine, il y a très peu d'actions juridiques pour plusieurs raisons. D'une part, un manque de confiance envers la justice, parce que il y a beaucoup de collusion. Sans même parler de corruption, mais de collusion entre une grande partie de la justice et le lobby minier. Et puis, d'autre part, un manque d'avocats spécialisés. Et puis, je dirais surtout, un manque de financement parce que tous ces procès coûtent cher. Il faut payer des avocats, il faut payer des déplacements, souvent des frais de justice, et les communautés n'ont pas d'argent pour mettre ces frais. Néanmoins, nous avons réussi à avoir un petit financement pour notre cause dans la cathédrale. Et sur la Puna, les communautés, 33 communautés indigènes se réunissent régulièrement depuis environ 6 mois, et avec toute la lenteur qui caractérise ces immenses étendues, avec leurs difficultés de déplacement, avec souvent le manque d'informations, c'est des gens qui vivent vraiment dans une steppe, dans un semi-désert, avec une densité de population allant de 2 à 1 habitant au kilomètre carré, avec des conditions vraiment très, très difficiles, et une sous-information, mais à partir d'il y a 6 mois, alerté par le danger de ces exploitations de lithium dans les salins, qui bouleverseraient leur vie, qui utiliseraient toute l'eau nécessaire pour l'activité agro-pastorale traditionnelle, et qui rendrait impossible l'exploitation du sel, de laquelle vivent plusieurs coopératives de paysans indigènes. Et voilà, le résultat, c'est que aujourd'hui même, notre avocate, qui est aussi la leur, est à Buenos Aires et présente le dossier pour une action en justice directement à la Cour suprême, du fait que ce qui permettra de gagner énormément de temps. À la Cour, elle a pu aller directement à la Cour suprême parce que du fait que ces communautés sont réparties sur 2 provinces. Pour les affaires interprovinciales, on est autorisé à aller directement à la Cour suprême. Donc voilà, aujourd'hui, ce moment-là auquel je vous parle est un moment certainement historique. Parce que l'une des rares actions en justice introduites par des populations, par des communautés indigènes, est en train d'être déposée à la Cour suprême. Alors comme pour notre cause, cette cause revêt une grande importance. Le verdict, disons, de la Cour aura un grand retentissement dans un sens ou dans l'autre, dans le monde du lobby minier d'un côté et de ce que j'appelle, ce que nous appelons la résistance, par réminiscence de ce mot, de la grande résonance que possède ce mot dans mon pays.
And drug trades escapades. Bogota to Buenos Aires, overrun by DEA. They making moves to protect the chemical fields. Just before Reaganomics, synonymous with high yields. They arm all sides so the paper trails can clear, while still enslaving First Nations with rest of the last meal. The revolutions and repeated ideals reveal the cast peel to steal defense and development deals. You think the war on drugs is for real? Who's pushing patent pills? Dr. Phil with steel, more prisons than bill. Copper crates in large amounts like Cali counts, with offshore private accounts. Foreign banks with tanks till it's time to bounce. Like bad checks, mad dolls to connect, and the government we elect remains the usual suspect. However, the cheddar endeavor to make a man clever, get you stronger, armed to the teeth, and his profits are better. For whatever, links, rings, material things, in exchange of the constant misery that it brings. People getting sold in murder like indigenous kings, a solo cloud kid berserk, pillaging like my king. Not giving a fuck, that seems to be the song that they sing. Ignorance is a special thing, but man, hypocrisy stinks. Double standards like statements and applications. Is it we of the world, the instant greed and gratification?
Nation.
Now where it is when we see the light, we close our eyes like we die. Living life of president, chilling in the night. Got a yard, what man? Got a yard, wash. You can't go to the lobby, you can't go to the bus. But I don't see the pussy wash. My vision is not low, so serving the wash. Check it on dust, man. Then the ampil moon. In battalion, me leve, put you stack up on sky. Gravity, necessity, and mentality. And don't even go to the bus. C'est une vanité, réalité, c'est vérité.
Alors, vous êtes à Radio Centreville 102.3 FM. On écoutait une chanson de Sad But True du groupe Nomadic Massive, un groupe de rap montréalais très excellent. Alors, on va continuer avec les nouvelles de Roger Moreau directement de nord-ouest de l'Argentine.
Nous avons appris récemment aussi qu'il y a un énorme projet de mine de prospection, mais qui ont découvert un gisement considérable d'un kilomètre de côté, de 5 kilomètres de long, semble-t-il, qui comprend des métaux précieux, de l'or, de l'argent, et du molybdène et certainement beaucoup d'autres, parce que jamais, dans ces cas-là, jamais un minerai va seul. Il est toujours accompagné de un ou deux autres avoués et souvent de plusieurs dizaines d'autres minerais de métaux très rares et très coûteux et très très précieux pour certaines industries de pointe. Encore une autre menace qui est arrivée et nous sommes en train de réunir la documentation nécessaire et puis voilà. Mais en fait, la grande nouveauté dans notre province, c'est cette mobilisation remarquable des communautés aborigènes, malgré tous les obstacles qui s'opposent, les obstacles politiques, administratifs, juridiques et naturels. Naturellement.
Donc une mobilisation populaire en fait qui a quand même des effets assez positifs jusqu'à maintenant, mais aussi des enjeux auxquels la population n'a pas fini de faire face.
Et bien sûr, nous savons que ce sera une lutte. Cette lutte sera longue certainement, mais elle a une grande vertu, c'est qu'elle contribue à rassembler les populations. Elle aura Enfin voilà, on ne peut pas préjuger de l'issue, mais il y a énormément d'aspects extrêmement positifs et vraiment un espoir, une espérance. Voilà, d'autant plus que dans notre province, comme je disais, nous avons plusieurs précédents de victoires ou complètes ou en procès. Actuellement. La première, ça a été il y a 8 ans, il y a eu dans notre vallée un projet de mine, de ligne à haute tension qui aurait complètement défiguré cette étroite vallée et rendu compromis très sévèrement la petite agriculture maraîchère qui fait vivre des milliers de familles. Parce qu'il est évident qu'avec un couloir de 50 ou de 100 mètres tout le long d'une vallée qui mesure entre 50 et 200 mètres de large, avoir une ligne au milieu sous laquelle il est impossible pour des raisons sanitaires de vivre, avec des chemins de dessert, enfin, ça aurait été vraiment une ruine. Ce genre de la petite agriculture et l'économie, disons, et la culture, la société agropastorale ne sont pas prises en compte par les administrations et les gouvernements dans le paradigme, disons, de développement industriel très de plus en plus centralisé avec des technologies centralisées et hégémoniques. Et bien néanmoins, les communautés, puis des militants, là, des villages, nous sommes mobilisés et nous avons obtenu l'arrêt de ce projet. Et le gouvernement a renoncé, le gouvernement provincial je me remémore encore la réunion, la séance où nous étions tous convoqués, où un ministre est venu nous dire qu'il pleurait presque, disons, en se lamentant, disons, avec tout le travail que nous avons fourni. Et voilà, la résistance populaire est sans action en justice cette fois-là, mais avec certaines actions de terrain assez fortes, on réussit à faire annuler ce projet.
Alors, c'est ce qui termine la chronique préparée par Monsieur Mongeau en direct d'Argentine, du village de Tilcara. Alors, il reste seulement quelques minutes à l'émission. C'est le temps qu'il nous faut pour vous présenter l'anti-hebdo, soit les événements de la semaine. Alors, ce soir, l'Union paysanne vous invite à une conférence intitulée « Changement climatique, terre et souveraineté ». Ça a lieu ce soir à 6h30 à l'UQAM, pavillon Paul-Gérin-Lajoie. Également ce soir, c'est la journée pour l'Université populaire qui traite ce soir du thème « L'écologie et le capitalisme ». Ce soir participera, entre autres, notre co-animateur Nicolas Van Kaloun. Ça a lieu à 6h30 au bar populaire, 6584 Saint-Laurent. Jeudi soir, 2 décembre, c'est le lancement du livre de Francis Dupuis-Déry, Retour sur un attentat antiféministe, qui traite de l'attentat, bien sûr, à l'École polytechnique du 6 décembre 89. Alors, c'est un livre qui est publié chez Lux Éditeur. La soirée présentera le lancement du livre, en fait, et une projection du DVD souvenir sur l'attentat qui a lieu à l'École polytechnique. Donc, la soirée se passe jeudi à 5h30 au bar Les Passages. C'est 951 rue Rachel Est à Montréal. Enfin, en fin de semaine, une manifestation d'appui au locaté du Journal de Montréal. Ça a lieu samedi 4 décembre à partir de midi. Le rassemblement se fait au parc La Fontaine, soit en face des bureaux du Journal de Montréal. C'est une manifestation lancée par la CSN. On rappellera que samedi, c'est également la marche commémorative pour le 5e anniversaire de la mort de Anas Bénis. Le rassemblement a lieu à 1h au parc 3, coin Queen Mary et Côte des Neiges. Et enfin, lundi prochain, c'est la grande mobilisation étudiante à Québec contre la rencontre des partenaires de l'éducation qui a pour but de négocier le montant de l'augmentation des frais de scolarité. Donc, la CES, Association pour une solidarité syndicale étudiante, appelle à une grande mobilisation à Québec ce lundi. Pour avoir plus d'informations, vous pouvez visiter le site web de l'Agenda militant ou également le Centre des médias alternatifs du Québec, cemac.net.
Et agenda militant.info pour les informations de l'agenda militant. Peut-être d'autres événements, s'il nous reste un petit peu de temps. Le 1er décembre, alors on fait un petit retour en arrière, demain soir, un atelier pratique avec les aliments d'ici.
Atelier pratique avec les aliments d'ici, germination et mignardise salée pour l'hiver. Venez apprendre à faire des germinations pour garder de la verdure et de la fraîcheur dans vos assiettes tout l'hiver. On vous montrera également comment faire des sauces pour agrémenter vos légumes d'hiver. Chips de légumes pour vous rappeler les barbecues d'été, le popcorn et les soirées cocooning. Ça veut dire si vous avez trop de courges dans votre frigo et que vous avez plus comment faire, comme moi qui reçois des paniers d'hiver, allez donc aux cuisines de la patate du peuple mercredi soir. Alors, ça va être entre 5 et 7 au 1455 de Maisonneuve Ouest. Au 7e étage, amenez un pot maçon et vous repartirez avec le grillage nécessaire et des graines à germer. Également, lundi soir, Cinéma Politicol et Yes Men seront à Concordia à 19h lundi 6 décembre. C'est ce qui conclut cette édition de En bas à gauche. Vous pouvez nous retrouver sur le blog enbasagauche.wordpress.com. On vous laisse avec le reste de la programmation de Radio Centre-Ville au 102.3 FM. C'est le bel âge qui suit et on vous retrouve pour d'autres nouvelles la semaine prochaine. N'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires, suggestions et idées ou à mettre des commentaires sur le blog de En bas à gauche à riseup.net. À la semaine prochaine.
Enfin, ma princesse.
Qu'est-ce qu'elle est belle. Reviens à toi, mon amour. Mon amour. Princesse. Princesse. Allez, réveille-toi. Princesse.
Quand un enfant n'y est pas, c'est son imaginaire qui disparaît. En novembre et décembre, participez à la lecture en cadeau en offrant un livre neuf à un enfant pauvre. La Fondation pour l'alphabétisation.
Le rendez-vous des grands de la chanson française, c'est tous les jeudis à 14h à l'émission Plaisir Thématique avec Jean-Édouard Mervilus sur les ondes de Radio Centre-Ville, le 102,3 5FM.
Bonjour, ici Pierre Lahaye, horticulteur. Je vous invite à prendre une bouffée d'air frais tous les mardis de 13h à 14h à Radio Centre-Ville au 102,3 FM. Je vous parlerai d'horticulture, d'environnement et aussi de musique. Une bouffée d'air frais tous les mardis de 13h à 14h.
Il se pourrait que le comédien de la pub précédente ait des difficultés à nourrir sa famille. Que la guitariste du dernier morceau diffusé soit une jeune maman qui lutte pour s'en sortir. Ou encore que le fils du présentateur soit un décrocheur. Les personnes dans le besoin passent souvent inaperçues. Voilà pourquoi les 18 centres aide du Québec appuient 1700 organismes qui savent les reconnaître et qui les aident à surmonter leurs difficultés. Donnez-nous le pouvoir d'aider. Visitez donnezacentreaide.ca. Ce temps d'antenne est offert par cette station.
Radio Centre-Ville 102,3 FM. Depuis 35 ans, nous mettons l'accent sur le monde de Montréal.